Et tous les jours, je dis, Seigneur, reviens plus vite, s'il te plaît. Hein? Mais en même temps, cette prière engendre, et je le crois, de plus en plus que les événements s'accélèrent, on le voit. Et il est important pour nous de dire, Seigneur, c'est vrai, tu es aux portes, mais tu patientes pour le salut des hommes. Nous, on est heureux, on appartient à Jésus-Christ, on se dit, on sait déjà où on va, mais combien il y en a qui ne savent pas où ils vont aller? Et peut-être qu'ils ne se sont pas rendus compte d'où ils vont. J'aimerais partager avec vous un texte de la parole de Dieu, vous le connaissez, vous l'avez déjà certainement lu, entendu, prêché sur ce texte, mais il y a deux, trois éléments qui m'ont interpellé et je voudrais vous les partager tout simplement dans l'évangile de Marc, au chapitre 10, à partir du verset 46. Marc, chapitre 10, à partir du verset 46. Le texte nous dit, « Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, un mendiant aveugle, Bartimée, fils de Timée, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Plusieurs lui faisaient des reproches pour le faire taire, mais il criait d'autant plus, « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Ils l'appelèrent et l'aveugle, en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle !» L'aveugle jeta son manteau, se leva d'un bond et vint vers Jésus. Jésus prit la parole et lui dit, « Que veux-tu que je te fasse ?»« Rabouni, lui dit l'aveugle, que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et se mit à suivre Jésus sur le chemin. Amen. On aimerait voir des miracles comme ça tous les jours, n'est-ce pas? Et en analysant ce texte, il y a des choses qui m'ont interpellé parce qu'il y a des réalités qui sont encore aujourd'hui présentes. Et parfois, nous-mêmes, on ne s'aperçoit pas des besoins des uns et des autres. Jésus, il est là, il est suivi par la foule, il est rentré à Jéricho, il a fait ce qu'il avait à faire à Jéricho, il a certainement partager la parole de Dieu, il a partagé le message du salut, il a annoncé la venue du royaume de Dieu, il a annoncé le salut pour les âmes, il a aussi averti de se garder de la religiosité, de se garder de tout ce qui pourrait nous empêcher de rentrer dans le royaume des cieux et d'être avec Dieu pour l'éternité. Et là, il se prépare à quitter la ville. Je ne crois pas que ce soit un hasard que Jésus passe par là. Avec Jésus, il n'y a jamais de hasard. D'accord? Donc, il passe. Et Jésus aurait pu aller directement voir ce brave Bartimée. Il lui dit, Bartimée, je sais que tu vas crier. On va éviter ça. Déjà, la foule crie beaucoup. Je te guéris. Mais Jésus n'agira pas comme ça. Est-ce que Jésus connaît nos besoins? Oui. Et nous, parfois, on est là, on dit, Seigneur, connais mon besoin. J'attends. Ce n'est pas faux. Mais parfois, je crois que Dieu attend aussi de notre part quelque chose, n'est-ce pas? Alors, une des choses qui m'a interpellé, c'est que, au départ, on a la présentation de cet homme. Comment il s'appelait cet homme? Bartimée. En plus, on nous donne aussi presque l'arbre généalogique, qui nous dit qu'il est le fils de Timée. Donc, c'était quelqu'un quand même de connu. Et incroyablement, tout de suite après, on ne parle plus, on l'appelle plus Bartimée, on l'appelle l'aveugle. On a le sentiment que l'identité est effacée par le problème que cet homme vit. Et combien de fois l'identité des hommes, des femmes est effacée par l'épreuve qu'ils vivent, par le problème, ou peut-être par une erreur. Certains ont été identifiés après par l'erreur qu'ils ont commis. On leur a même peut-être changé le prénom. On ne les appelle plus par leur prénom et leur nom de famille, on dit un tel, le. Ah oui ! Je me rappelle d'une fois où mes parents étaient partis et ils avaient amené avec eux le jeu de clé de la voiture. Et ils étaient partis à 150 km. Donc, problème, comment faire à utiliser la voiture qui devait être là pour qu'on puisse finalement aller à l'école et tout le reste. Donc, j'ai demandé à un voisin qui me prête ses clés de voiture pour aller avec la voiture. Mes parents, ils l'ont envoyé avec quelqu'un qu'ils ne connaissaient pas, moi non plus. Ce monsieur est arrivé dans le village, il était arrivé auprès de la famille, mais il a pu penser aux clés. Lui, il est rentré chez lui, il était content, tout allait bien. Il était en train de faire la fête avec les siens. Et moi, j'arrive dans le village et je dis, écoutez, je cherche monsieur un tel. Je ne connais pas. Je ne connais pas. Alors certains, ils ne le connaissaient pas, d'autres, ils préféraient ne pas dire parce que, vous savez, dans certains endroits en Calabre, moins t'en connais, mieux tu te portes. Et finalement, là, je vois une personne d'un certain âge qui me connaissait. Il me dit, qu'est-ce que tu fais? Ben, je lui dis, je suis venu récupérer mes clés, on les a données à un tel, mais j'arrive pas à trouver l'adresse de ce monsieur. Ah ben si tu l'appelles par son nom de famille, personne ne le connaîtra. Tu dois dire que tu cherches un tel avec tel. Ah bon? Et moi, j'aurais jamais osé. Et alors, il me dit, mais t'inquiète pas, je te dis où il est, il n'y a pas de souci, tu vas à tel endroit, tu rencontreras telle personne et tu lui dis que tu vas de ma part. Et finalement, ben, j'ai pu trouver la personne, mais non pas par son nom de famille, par une bêtise qu'il avait faite quand il était petit. C'était son surnom. Bartimée, il n'a pas fait de bêtise. Bartimée, il souffre d'un problème et depuis bien des années, il est aveugle. Alors, que se passe-t-il quand quelqu'un d'entre nous rencontre un problème comme la difficulté de pouvoir voir? Ça vous est arrivé déjà d'avoir quelque chose dans l'œil et devoir couvrir ou soigner les yeux? À un moment, on nous bande les yeux et là, après, allez, on va faire quelque chose de plus réalisable pour tout le monde. La nuit, vous levez, vous n'allumez pas les lumières pour pas réveiller le chat, hein, pour pas qu'il commence à vous agresser aux pieds. Hein, et vous vous orientez dans votre maison comment? Tâtonnant, mais après, vous êtes tellement habitué à chez vous, vous savez où il faut tourner, vous savez où est l'interrupteur, vous savez où est le robinet, vous connaissez votre maison. Et dans le cas présent, je me suis posé la question et je me suis dit que très souvent, on apprend à vivre avec nos difficultés. Et on s'habitue et on s'organise avec nos problèmes. Et c'est comme si ces problèmes, d'un coup, disparaissaient ou, en tous les cas, n'avaient plus autant d'ampleur dans notre vie parce qu'on arrive quand même à faire avec. Non? On se débrouille. On arrive à trouver le moyen de vivre malgré la situation et on trouve une manière de substituer ce manque par autre chose. Or cet homme, il se trouvait là parce qu'il demandait l'aumône. Donc il avait l'habitude de se rendre à cet endroit pour finalement pouvoir trouver le moyen de subvenir à ses besoins. Et il entend que Jésus passe. Alors, il y a une chose qui m'a interpellé, c'est un miracle en trois actes. Dans ce texte, on retrouve trois actes pour qu'un miracle s'accomplisse. Le premier acte, c'est ce que je disais tout à l'heure. Lazare ne reste pas en silence, il entend que Jésus passe. Et le premier acte de la foi, c'est de invoquer Dieu. Quand nous avons un problème, quel qu'il soit le problème, certes Dieu le connaît, mais est-ce que Dieu n'attend pas aussi de notre part que nous soyons capables de l'invoquer et dire, ô Éternel, viens à mon secours? Si on reste en silence, imaginez, j'ai Marcelin devant moi, je viens voir Marcelin. Marcelin, est-ce que tu as besoin de quelque chose? Et Marcelin, il se dit, mais il doit le savoir. Pas un mot. Marcelin, tu as besoin de quelque chose? Pas un mot. Parce qu'il a cette conviction intérieure, interne, bien forgée, il doit savoir quel est mon problème. Marcelin, tu as besoin de quelque chose? Mais je ne vais pas lui répéter la question une quatrième fois. Qu'est-ce que je fais? Je m'en vais. Et là, peut-être que trop tard, Marcela, il va se dire, mince, j'ai loupé l'occasion de dire quel était mon besoin. Est-ce que parfois, nous, on passe par côté de la réalité en voulant, excusez-moi, être trop spirituel et on oublie que Dieu attend que nous soyons de ceux qui invoquent son nom. D'ailleurs, il dira dans sa parole, invoquez-moi au jour de la détresse et je serai, non ? Je serai là. Alors, dans le verset, dans Jérémie chapitre 29, les versets 12 et 13, il dit, alors vous m'invoquerez et vous pourrez partir. Vous intercéderez auprès de moi et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez, car vous me rechercherez de tout votre cœur. Le premier acte, c'est de jamais rester impassible, mais agir. Même si le problème nous semble dire, voilà, je suis aveugle, je ne vois pas clair, mais Dieu sait comment reconnaître notre voix. Je n'ai pas forcément besoin de voir Jésus, et c'est ça que Bartimée nous enseigne un peu. Hein. Je n'ai pas besoin de voir Jésus, j'ai juste besoin de croire que si je crie à Jésus, si j'appelle à Jésus, si j'invoque le nom de Jésus, Jésus entendra ma voix même au milieu de mille voix. Amen. Et je voudrais vous dire, même dans les temps de prière, parfois on attend qu'il y ait le silence complet pour ouvrir notre bouche. Vous vous trompez. Si même devait arriver que tout le monde démarrait à prier dans le même temps, Dieu est capable d'entendre la prière de chacun. Quand j'étais très jeune, il y avait un enfant dans l'église du nom de Moïse, un joli prénom. Il était né une nuit où il y avait eu un gros tremblement de terre. Il n'a pas été sauvé des eaux, mais l'hôpital avait bien bougé. La maman a dit, je l'appellerai Moïse. Elle n'a même pas posé la question au papa. C'est comme ça. Et donc Moïse voulait prier. Mais à chaque fois qu'il essayait de prier, il y avait un adulte qui démarrait sa prière. Et un jour, Moïse, il en avait marre. Il était tout petit, je m'en rappelle. Ça ne m'a pas choqué. Je me suis dit, ça m'a surpris. Cet enfant, il s'est mis debout sur la chaise. Et au moment où il a entendu dire « Amen », il a commencé « Seigneur Jésus !» Et là, tout le monde est resté en silence parce que l'enfant a su trouver le moyen de crier plus fort que les autres. Parce qu'il voulait que Jésus entende sa voix. Faisons pas l'erreur de croire que Jésus n'attend pas de nous entendre. Ne faisons pas l'erreur de croire que Jésus ne nous entend pas parce qu'il a trop à faire, vous savez, avec le Covid. Il peut être très pris, Seigneur. Mais moi, je crois qu'il n'y a pas de problème pour Dieu. D'ailleurs, il nous dit, vous m'invoquerez et vous pourrez partir. Vous intercéderez auprès de moi et je vous exaucerai. Qui a besoin de l'exaucement de Dieu ? Amen. Gloire à Dieu. Alors, le premier acte du miracle de la foi, c'est d'invoquer Dieu. Il dit le texte que Jésus s'arrêta et dit « Appelez-le ». Ils l'appelèrent et l'aveugle, en lui disant « Prends courage, lève-toi, il t'appelle ». Il arrive parfois que Dieu s'adresse à nous de manière directe, personnelle. Il arrive parfois que Dieu se sert de nous pour parler à quelqu'un. Dans les deux cas, Dieu nous interpelle à être à l'écoute de sa voix. Combien c'est merveilleux d'un moment, de voir que le Seigneur peut dire un mot à quelqu'un et la personne, elle ne le savait pas, elle n'arrivait pas. Et Dieu nous adresse un message à remettre à cette personne. Non ? Mon frère, ma sœur, Dieu a entendu ta prière. Prends courage. Faisons pas, excusez-moi, l'erreur de dire « Hé, l'aveugle ». Que Dieu nous garde d'identifier les personnes par le problème, même si parfois on essaie d'identifier les uns et les autres par « Ah, tu te rappelles, c'est telle personne qui a comment les cheveux tout d'un côté, ou les cheveux en pétard, avec les beaux yeux bleus, tu vois, tu peux pas, il y a le masque, mais tu as les yeux bleus, tu les vois, tu peux pas la louper. Hein ?» Moi, ça m'arrive parfois, quand je me rappelle pas les prénoms, je dis « Mais tu sais, telle ou telle personne. » Et là, oui, c'est ça, on arrive. Et là, Dieu agit, parle, invite. Jésus n'est pas en train de crier de l'autre côté du village, mais il dit, dites-lui de venir. Il a une attitude humaine, non ? Respectueuse. Parce que Dieu a un profond respect de ses créatures, de ses enfants. Et donc, quel qu'il soit le message que Dieu nous adresse, sachons l'apporter aussi avec le respect qui se doit. Même si on n'est pas forcément d'accord avec la personne, vous imaginez cet homme que Dieu envoie pour aller guérir Saul de Tarse. Ouais, mais Seigneur, tu sais, il nous en a fait, lui, hein. On le connaît. Et quand vous lisez le texte, il lui dit, Saul, mon frère, waouh. Dieu nous apprend à considérer les personnes, non pas sur ce qu'ils ont fait, mais sur ce que Dieu va faire dans leur vie. Amen. Alors finalement, on passe au deuxième acte de l'opération de la foi. Qu'est-ce qui fait notre brave Bartimée ? Je vous écoute. Vous avez perdu Bartimée. Ah non, 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 il est là. Il se lève et d'un coup, qu'est-ce qu'il fait ? Il jette son manteau, il se lève d'un bond et vient vers Jésus. Vous savez, à ce temps-là, les personnes qui étaient malades étaient reconnaissables par rapport à la manière qu'ils avaient de s'habiller. Ils avaient des habits qui permettaient de reconnaître qu'ils avaient des soucis de santé. Par exemple, celui qui avait un problème de lèpre, premièrement, il devait crier, mais il avait un bâton avec des clochettes, il était habillé d'une certaine manière. Et là, cet homme, connu non pas comme Bartimée, mais connu comme l'aveugle, a ce manteau qui caractérise ces hommes qui étaient habitués à le mettre par terre, à s'asseoir dessus, c'était un peu le tout. Hein. Sur ce manteau, il devait y avoir de tout, l'ADN de tout le monde. Plus que ça, dit Martine. Et c'est avec ça que cet homme, il se couvrait, c'était peut-être tout ce qu'il avait, parce que les nuits étaient quand même froides. Les journées certainement chaudes, mais les nuits froides. Alors là, le manteau devait sentir aussi un peu. Mais bon, ce n'est pas le souci. L'important, c'est que dans ce deuxième acte de la foi, il est question de se débarrasser de la vieille identité. Est-ce que nous, on est prêts à nous débarrasser de la vieille identité ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que pas seulement il est prêt à dire « moi, je veux arrêter d'être appelé l'aveugle, mais je veux arrêter d'agir comme l'aveugle ». Si jusque-là, cet homme, à cause de sa cécité, il était obligé de demander l'aumône, ça veut dire que dans sa nouvelle identité, cet homme allait se servir de ses mains pour aller gagner son pain tous les jours. Il n'allait pas s'installer dans quelque chose qui faisait partie de son ancienne vie. Et nous, parfois, on a tendance à vouloir le salut, la guérison, mais à rester quand même avec certaines choses qui nous amélioraient un peu la vie avant. Et je crois que ces choses-là peuvent devenir à un moment un empêchement à une pleine guérison. Non ? Vous vous rappelez de cet homme qui est aveugle ? Qu'on amène à Jésus, et Jésus prend et ramène hors de la ville. Vous connaissez ce texte. Jésus prie une première fois pour cet homme, et il dit, alors tu vois, non, j'y vois pas clair. Et Jésus prie une deuxième fois. Quel encouragement pour nous de dire de ne pas s'arrêter parce qu'on a prié une fois, ça n'a pas marché. Jésus prie deux fois, non pas parce qu'il n'était pas capable, mais parce que certainement, il y avait aussi quelque chose que cet homme devait saisir dans son cœur. D'ailleurs, si vous faites bien attention, Jésus le sort de la ville parce que dans la ville, il n'avait fait aucun miracle à cause de l'incrédulité. Et après, une fois que cet homme est guéri, il lui dit, garde-toi de rentrer dans la ville parce que l'incrédulité ambiante, elle pourrait à nouveau t'affecter. Et fais attention à ce que tu dis pour ne pas tomber pire qu'avant. Quand cet homme se débarrasse de son manteau, c'est un acte de foi de dire « je ne veux plus être comme j'étais avant ». Et en réalité, la conversion, ça doit nous amener à ce geste de nous débarrasser de notre passé. La foi doit nous amener à quitter ce qui ne va plus dans notre vie, ou en tous les cas, tout ce qui pourrait encore nous identifier à notre passé, surtout si c'est un passé de pécheur. Non ? Il se débarrasse. Dieu nous amène à nous débarrasser de notre vieille identité. La parole de Dieu nous dit que pour ceux qui sont en Christ, ils sont une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses, le texte d'origine dit, sont en train de devenir nouvelles. Mais la métamorphose, elle est immédiate. Les changements prennent du temps. Mais de passer de la vieille nature à la nouvelle en Christ, c'est immédiat. Alléluia, quel changement, ce n'est pas un coup de baguette. Mais c'est un coup de la grâce. Troisième acte de l'opération de la foi, c'est se lever et venir à Jésus, le Seigneur. Marcher quand on est chez nous, on l'a dit tout à l'heure, on a nos habitudes. Mais imaginez ce que devait être pour cet homme, marcher au milieu d'une foule pour finalement aller à Jésus. Et une fois arrivé à Jésus, s'entendre poser la question « Que veux-tu que je te fasse ?» Je ne sais pas. Je ne sais pas, Seigneur, je voudrais gagner au loto. Je crois que même s'il avait gagné au loto, ça ne lui aurait pas donné la vue. Non ? Mais Jésus lui dit « Que veux-tu que je te fasse ?» Et à quelque part, Jésus voulait que cet homme identifie exactement son problème. Est-ce que dans les problèmes qui sont les nôtres, est-ce qu'on est vraiment prêt à identifier où est le problème, à le reconnaître devant le Seigneur et accepter que Dieu opère un miracle et une transformation dans notre vie? Il y a différentes choses qui peuvent nous rendre aveugles. On peut être aveugle physiquement, mais on peut être aussi aveugle spirituellement. On peut être aveugle quant à la situation de notre couple, de notre famille, aveugle quant à la situation de notre lieu de travail. Il y a plusieurs choses qui peuvent nous rendre aveugles. Combien de gens aujourd'hui n'acceptent pas Jésus ? Pourquoi ? Parce qu'ils préfèrent être aveugles. Tout leur dit que Dieu existe, tout leur dit que Jésus revient bientôt, tout leur dit que la parole de Dieu annonce la réalité et nous annonce aussi l'avenir. Et pourtant ils disent non, non. Ça ne m'intéresse pas, c'est trop tôt. Je ferai ça, un jour quelqu'un m'a dit « je ferai ça à la dernière seconde ». J'ai dit « si le temps était entre tes mains, peut-être. Mais comme tu n'es pas le patron du temps, si ça t'arrive pendant que tu dors, ben c'est fichu. » Ah. Ne renvoie pas à demain ce que tu peux faire aujourd'hui, maintenant. Non ? Est-ce qu'on arrive à identifier quel est le problème pour lequel on demande l'intervention du Seigneur ? Vous savez, parfois, dans nos problèmes, les problèmes nous permettent d'identifier aussi l'origine du problème. Non ? Je ne sais pas, le Seigneur peut mettre un empêchement pour me faire comprendre que si je continue dans telle direction, ben, ce n'est pas bon pour moi. Dieu peut mettre des empêchements devant moi. Moi, je ne comprends pas tout de suite, je ne suis pas content. Je ne comprends pas, Seigneur, pourquoi tu me mets tel ou tel obstacle. Non, 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 réfléchis bien. Je me rappelle d'un frère qui faisait un voyage en mission et il devait se rendre dans un endroit pour prêcher. Et ce jour-là, à 5 minutes du départ, gros souci au niveau des intestins, bloqué complètement, impossible de prendre la route pour aller finalement honorer cette invitation. C'était un pays un peu chaud, Mais impossible, pas moyen. Et compte tenu de la situation, il ne pouvait même pas appeler un médecin. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Le frère, il est obligé de rester. Il dit, je ne peux pas bouger, c'est impossible. Dans l'état des choses, ce n'est pas possible. Et il est là, il dit, Seigneur, je ne comprends pas. Les frères, les sœurs qui sont là, ils prient. Il dit, Seigneur, délivre-la de ce problème. Seigneur, on ne comprend pas. Il est venu exprès pour ça. Et il y a un empêchement. Et ce frère, il est là, il se tord de douleur. Et il est surtout attristé parce qu'il ne peut pas honorer cette invitation. Et finalement, c'était trop tard pour partir. Et comme par hasard, paf, tout se débloque, il est guéri complètement et tout va bien. Sauf qu'il reçoit un coup de téléphone qui leur dit qu'en effet, sur la route, il y avait un guet-apens qui était prêt. Puisque certains avaient entendu qu'il y avait un prédicateur qui venait de l'étranger, et en effet, ils voulaient lui faire du mal. Alors parfois Dieu permet certaines choses juste pour nous arrêter parce qu'il sait qu'on est tellement convaincu, on a tellement envie de faire les choses pour le Seigneur que forcément il est obligé de mettre un blocage sérieux. Et nous on est là et on s'en prend en disant ouais, c'est le combat spirituel. Non, non, c'est juste Dieu qui est en train de te garder de quelque chose. Parfois Dieu permet certaines situations parce que je crois que Dieu veille sur chacun d'entre nous. Il a autorité sur tout et rien n'arrive sans que Dieu le permette, dit la parole de Dieu. Et parfois, notre problème est un indicateur de la source de nos soucis. Et là, Bartimée, finalement, dit « Seigneur, guéris mes yeux. » Qu'est-ce que nous permettent de faire nos yeux? De voir? Et comment on voit les autres? Comment on se regarde soi-même? Et si d'un coup on ne pouvait plus voir, comment on analyserait peut-être les autres? Vous savez, quand on est bien portant, on est autosuffisant. Hein? On n'a besoin de personne. Du moment où on a un handicap, même la main du plus petit est pour nous d'un grand avantage parce que lui voit. Et nous pas. Et si le Seigneur voulait travailler notre humilité, et si Dieu voulait travailler peut-être, oui, notre orgueil ou notre regard hautain envers les autres, est-ce que en nous privant de la vue, est-ce que ça pourrait marcher? Est-ce que d'un coup on serait là en se disant, je peux plus faire le fier comme avant, hein. Je peux avoir des beaux yeux bleus, mais si je vois rien, ça ne sert à rien, hein. Non? Et donc, d'un coup, notre orgueil, notre ego, en prend un coup. Peut-être il y a autre chose, j'en sais rien. Analysons ce que Dieu veut nous dire et la manière où Dieu attend de notre part aussi de reconnaître, Seigneur, je suis aveugle. Peut-être on pourrait dire, Seigneur, je suis têtu. Hein? Seigneur, je suis borné, j'ai des gros maux de tête. Je suis borné. Hein? On dit que les Calabrais, ils sont têtus. Hein? Que les Calabrais. Hein? Le reste du monde, ça va. Que les Calabrais, en plus, vous avez un pasteur qui est d'origine calabraise. Donc, vous avez la totale. Hein? Mais on voit que, finalement, cet homme, il vient et il s'avance. Donc, le troisième acte du miracle, ce n'est pas seulement de crier à Jésus. C'est important, mais c'est le premier acte. Deuxième, c'est de se débarrasser de la vieille nature. Troisième, c'est d'avancer avec le Seigneur. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il fait? Il avance vers Jésus. Et avancer vers Jésus, c'est avoir aussi se présenter devant lui avec un cœur vrai. Seigneur, voici mon problème. Seigneur, je suis orgueilleux. J'ai besoin que tu me guérisses. Seigneur, je suis qu'un pécheur. J'ai besoin que tu m'aides. À Bartimée, il ne s'est pas fait répéter la question deux fois. Il n'était pas sourd, Bartimée. Non, Seigneur, que je recouvre la vue. Et quelle a été la réponse de Jésus? Et il dit pas les choses comme ça, il dit « Rabouni, maître, que je recouvre la vue. » C'est magnifique. « Va, ta foi t'a sauvé. » Amen. Aussitôt. Ça dure combien ce aussitôt? Une Une demi-seconde, donc, il fait plus vite être guéri qu'à être dit. Non ? Aussitôt. Donc, ça veut dire que Dieu n'a pas problème de timing, il n'y a pas de fuse horaire. Aussitôt, il fut guéri. Pourquoi ? Parce qu'il a mis en action sa foi. Parce qu'il a agi de la bonne manière. Il est allé vers Jésus, le Fils de Dieu. Il est allé vers Jésus, le Sauveur. Il est allé vers Jésus, le Seigneur. Et le texte nous dit qu'il a repris la marche. Il n'est pas retourné en arrière, puisqu'il dit qu'aussitôt il recouvra la vue et se mit à suivre Jésus sur le chemin. Amen. On va fermer nos yeux. Et peut-être que cet après-midi, quelqu'un a besoin de dire « Jésus, fils de David, aie pitié de moi. » Les problèmes peuvent être différents et Jésus aura une solution à chaque problème. Mais il est question pour nous de nous approcher de Dieu avec foi. Et croyons-le que aussi tôt, Jésus est capable de nous guérir, de nous libérer. Est-ce que quelqu'un aujourd'hui aurait besoin de Jésus ? Vous pouvez faire le choix de rester en silence. Excusez-moi de vous dire peut-être de repartir même avec votre problème. Comme vous pouvez dire, Seigneur, moi j'ai besoin de toi. Je ne vais pas vous demander de dire devant tout le monde votre problème, même si cet homme il l'a fait. Mais juste faire un pas de foi, de dire, Seigneur, moi j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ton secours, Seigneur. Et si quelqu'un a besoin du secours de Dieu, qu'il lève juste sa main et on va prier ensemble. Oui, amen, oui, amen, oui, amen, j'ai vu votre main. Oui, amen, 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 Seigneur Jésus. Seigneur, je crois que il ne manque pas des hommes et des femmes comme Bartimée. Il ne manque pas d'hommes et de femmes qui ont besoin de toi. Nous en sommes la preuve. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Seigneur, nous croyons qu'en appelant à toi, en faisant appel à ta miséricorde, à ta grâce, Seigneur, tu sauras nous répondre. Tu sauras aussi, Seigneur, comment nous parler et tu nous parleras autrement que le monde nous parle. Si le monde nous pointe du doigt à cause de nos problèmes, toi, tu nous appelles par ton amour et par ta miséricorde. Seigneur, ce que Bartimée a vécu, nous pouvons le vivre nous aussi aujourd'hui. Et je veux te prier pour tous ceux et celles qui ont levé la main en disant, moi, j'ai besoin de Jésus. Seigneur, que ta main accomplisse sur leur vie ce qu'ils t'ont demandé. Seigneur, que la prière qui a été élevée vers toi en disant, Seigneur, viens me secourir dans tel problème. Seigneur, trouve de ta part aussi cette réponse, va, ta foi t'a sauvé. Et aussitôt, nous le croyons, Seigneur, parce que tu n'es jamais en retard. Aussitôt, ta main miséricordieuse sera comment relevée pleinement. Pour que, Seigneur, nous n'ayons pas à revenir à notre ancienne vie, reprendre notre vieux manteau, et retrouver notre ancienne position. Mais Seigneur, que nous aussi nous puissions te suivre véritablement sur le chemin. Seigneur, merci de ta parole qui encourage nos cœurs, mais qui nous enseigne aussi, Seigneur, à être porteurs de ce message autour de nous, Seigneur, avec le juste regard, avec la juste compassion, avec les mots, Seigneur, qui conviennent, parce que tes paroles n'ont pas été les propos des autres, mais tes paroles ont été douceur, amour, bonté, miséricorde, pardon, compassion. Seigneur, donne-nous des entrailles de miséricorde pour apporter autour de nous le message que toi tu nous donnes d'apporter. Seigneur, et que nous soyons fidèles à ta parole, fidèles à tes propos. Seigneur, merci encore pour tout ce que tu vas accomplir dans la vie de mes frères, de mes sœurs. Je te le demande au nom précieux de Jésus-Christ. Amen. 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 Gloire à Dieu. Béni soit Seigneur. Béni soit Jésus.